Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio FM Plus et dans l'émission Revenant de l'Expo. Trois invités aujourd'hui? Non, vous allez en avoir quatre pour le prix de trois. On a tous les micros sont pris, nous sommes cinq, tous les micros sont pris. On va parler du Carrousel, c'est un endroit très particulier dans Montpellier qui a été inauguré le 15 octobre, si je ne m'abuse. Et c'est l'endroit d'ailleurs où se trouve notre radio, Radio FM Plus. Donc bienvenue à tous, à tous les quatre. Éric Bosque, bonjour.
Bonjour.
Stéphane Chenry.
Bonjour.
Lisa Delamarche et Ornella Morajupin, deux bonjour. Hommes de femmes. Bonjour. Et donc, ils vont nous parler, si vous le voulez bien, du passé, du présent et surtout de l'avenir de ce lieu, avec tout ce qu'il peut comporter comme activité, événement, possibilité, ouverture d'esprit et place dans ce fameux quartier. Donc, nous sommes au pied du boulevard Gambetta, pas très loin de l'église Saint-Denis, pas très loin de la brasserie. Oh, faut pas que je le dise, c'est de la pub si je le dis. Le dôme. Donc on est très facilement repérable. C'est un bâtiment qui a été très très longtemps en travaux, Éric. Et c'est à vous que je m'adresse en premier. Vous êtes donc le directeur du lieu?
Non, pas précisément, je suis le président.
Oh là. Alors, est-ce que le président a des pouvoirs autant que le directeur? Et est-ce qu'il y a un directeur?
C'est pas du tout la même chose. Donc le président, il est là pour représenter l'association. Il reçoit un mandat de ses dirigeants notamment, et donc en tant que mandataire il doit œuvrer à ce que l'association stratégiquement avance de la meilleure des manières, voilà. Et pour avancer, et bien évidemment elle a besoin d'un coordonnateur qui est un peu notre cheville ouvrière, et c'est Stéphane.
Donc Stéphane, on peut considérer non pas qu'il est directeur mais c'est plutôt coordinateur. Vous préférez voir les choses comme ça?
Coordinateur mais directeur aussi, en fait ça fait un peu les mêmes choses, hein.
Je vais vous dire, quand on vit au Carrousel, la première personne sur laquelle on tombe, quelles que soient les circonstances, c'est Stéphane. Donc, Monsieur le Président, on va le faire, on va se la jouer comme ça. Monsieur le Président, ce lieu a bien ouvert alors en septembre, me semble-t-il, mais a été inauguré en octobre. Mais c'est l'aboutissement d'une très, très, très longue aventure.
Oui, c'est une très longue aventure. Et le Carrousel, le bâtiment, est une longue aventure aussi, puisque... C'est en 1831 hein, que ce bâtiment sort de terre un petit peu, puisque sa construction première, c'est un manège à cheval pour les cavaliers et donc l'armée.
C'est un bâtiment militaire.
C'est un bâtiment militaire, effectivement.
D'accord.
Voilà, donc ce bâtiment militaire vit. Et puis en 72, oui, Stéphane va m'aider un petit peu.
Au secours, Stéphane.
72, voilà. Ce bâtiment donc est rétrocédé. En tout cas, la propriétaire le revend à l'église protestante unie de Montpellier. Alors, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas tout à fait l'église qui le rachète, c'est une société civile immobilière hein, qui le rachète pour l'église, parce qu'à l'époque, l'église n'avait pas le droit d'acheter donc, de l'immobilier. Voilà, donc ça c'est la deuxième phase, et jusqu'à 2008 environ, ça reste un lieu de culte. Voilà, donc c'est un lieu
tout
de culte.
Tout le bâtiment, parce que c'est immense en fait.
Voilà,
hein.
Tout le bâtiment. Donc
on sait qu'il y a une chapelle dans une petite rue perpendiculaire au cours Gambetta, mais le bâtiment entier était...
Le bâtiment entier était dédié effectivement à la paroisse, et donc c'était un temple. Hein. C'était le deuxième temple à Montpellier, puisqu'on avait le temple de la rue Maglone. Voilà.
Il y avait aussi d'autres activités. Hein. Outre le temple, il y avait une école protestante hein, qui a fonctionné pendant 50 ou 60 ans. Il y a eu un dispensaire aussi, et différentes associations, la Croix Bleue, donc différentes associations aussi d'origine protestante qui étaient là. Hein. Donc c'était ce qu'on appelait le Carré Bruès avec toutes les activités de l'église.
Le Carré?
Carré Bruès.
Bruès. Ah oui, Bruès parce que c'est la rue Bruès.
Oui.
D'accord.
Okay. Oui. J'étais en train... Parce qu'en fait, le bâtiment était en deux parties aussi. Hein. Il y avait cette deuxième partie dont parle Stéphane. On la voit aujourd'hui dans le nouveau bâtiment, puisque c'est la Fondation Armée du Salut qui l'occupe. Mais il y avait effectivement deux corps de bâtiments, le temple et puis à côté, les bâtiments dont parle Stéphane.
Donc le lien avec en revenant de l'expo, c'est quand même que c'est un très beau bâtiment, parce qu'architecturalement, c'est un bel endroit et qui a été très bien restauré.
Oui, alors il a été très bien restauré. Finalement, c'est un projet de requalification d'un lieu de culte. Et donc... on pourrait dire que les pierres un peu anciennes revivent, hein, c'est un peu ça, donc des pierres vives, hein, alors ça c'est la citation de Rabelais. Et donc,
Rabelais qui est passé par Montpellier.
Qui est passé par Montpellier. C'est, voilà, donc on est
effectivement.
Oui, tout à fait. Et donc ce bâtiment, finalement, il porte un petit peu la marque de ce, j'allais dire, du projet d'aujourd'hui, qui est un lieu qui allie à la fois le passé et la modernité, puisque nous on a gardé les fondations. Hein, l'architecte Laurent Dufoy a travaillé sur ce bâtiment-là, a gardé donc ses fondations. On voit d'ailleurs les traces, hein, et la mémoire un peu du lieu, et ça c'est assez typique, assez sympa. Et puis la deuxième partie, qui est une partie un peu plus moderne du lieu, et donc c'est cette partie qui abrite notamment la pension de famille.
Alors comment le projet a-t-il pris forme ? Là on parle du bâtiment, mais il fallait voir ce qu'on allait mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était le projet ? Est-ce que c'était de moderniser ce qui existait déjà d'une certaine façon, en refaisant les bâtiments et en reproduisant ce qui existait déjà, ou est-ce qu'il y avait autre chose que ça ? Et pourquoi ça a été, parce que moi je suis arrivée à Montpellier il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça, et c'était en travaux, et c'était en travaux, et c'était en travaux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? Enfin, vous allez me dire des travaux, certes, mais on a l'impression que ça a été très long quand même à mettre en place, et qu'il a fallu une sorte de ténacité des gens qui voulaient que ce projet aboutisse pour qu'il aboutisse.
Alors là, je vais prendre mon joker parce que moi, je suis arrivé assez un peu pendant cette période-là. Et donc, peut-être que Stéphane, il peut un peu mieux en parler que moi parce qu'il a suivi tous ces procès, peut-être.
J'ai pas suivi toute l'histoire, mais je suis là, je suis dans l'association depuis quelques années, effectivement. Et entre 2008 et 2020, la pose de la première pierre, il y a eu effectivement tout un processus long, parfois un petit peu douloureux, hein, pour l'Église protestante, avec certaines sensibilités qui se sont exprimées par rapport à l'attachement au lieu, hein, puisqu'il y avait une communauté, enfin il y avait des familles qui étaient très attachées à ce lieu. Des familles qui avaient des mariages, des baptêmes qui avaient eu lieu dans ce... Et il y a eu quelques douleurs, on va dire, de voir disparaître ce temple où il y avait toute une histoire de ces familles. Voilà, mais bon, ça c'est maintenant la page est tournée. Donc
il n'y a plus de temple.
Il n'y a plus de temple. Hein, donc voilà, il y a eu quelques recours, enfin il y a eu quelques aléas juridiques, on va dire, autour du permis de construire qui ont fait que.
C'était plus administratif,
voilà,
pour le coup.
Plus administratif. Le premier permis de construire date de 2014. Hein, donc entre 2014 et 2020, il y a eu là encore quelques péripéties administratives et juridiques. Mais voilà, bon, ça s'est fait, et en 2020, donc
les travaux
ont commencé.
D'accord. Et c'est vrai que c'est un quartier qui a beaucoup bougé, parce que en 2020, il me semble que c'était l'ouverture du MOCO, que les sacs ont repris leur place, et que ce bâtiment, qui est aussi un bâtiment emblématique du quartier, a commencé ces fameux travaux, qui ont été longs quand même, 4 ans. Tout a été refait ?
Les travaux ont duré, deux ans à peu près.
Deux ans
entre,
parce qu'on voyait rien.
Oui.
La façade a été dégagée il y a très peu de temps.
Il y a eu la démolition, oui. Après, c'est resté un terrain vague, enfin un terrain assez inoccupé pendant quelques temps. Mais la construction elle-même a duré 2 ans, quoi. Ça s'est fait grâce à la fondation du protestantisme, hein, puisque le projet immobilier, il faut le dire, a vu le jour grâce au soutien financier de la Fondation du protestantisme. L'ancienne église réformée, qui est devenue Église protestante unie, a cédé le terrain gratuitement. La Fondation du protestantisme a bâti le bâtiment, avec donc bien sûr les financements aussi de GAM pour sa partie propre dont on va parler, et la partie armée du salut aussi. Voilà, donc il y a eu un montage financier autour de ça.
On va en parler tout à l'heure. J'allais dire, il y a un grand nombre de copropriétaires, je ne sais pas, en tout cas de colocataires dans le lieu, et des activités extrêmement diverses, puisque cette radio est abritée dans ce lieu, mais qu'il y a aussi d'autres associations qui s'y trouvent et qui sont très très différentes d'une radio. Moi, je reviens sur le bâtiment, si vous le voulez bien, Eric. J'allais dire, il est tout en sobriété. Je trouve qu'il reflète bien l'esprit protestant, c'est-à-dire il y a une efficacité. C'est beau, c'est simple, c'est clair. Et puis il y a un côté quand même assez pratique, quoi.
Oui, une forme d'épure, effectivement.
Même si ça n'est plus religieux, on garde ces arcades, ces grandes baies vitrées, cette ouverture sur l'extérieur, mais en même temps...
Oui, et vous voulez
en dire ? Non, je voulais que vous m'en parliez. Effectivement, je suppose qu'il y a eu plusieurs projets architecturaux.
Il n'y en a eu qu'un.
Et donc, c'est tout de suite parti sur ces belles arcades.
Oui. Donc, la façade a été conservée. La porte du temple a été conservée, pour ceux qui passeront sur...
Ce que j'appelle, la chapelle, mais c'est un temple, c'est ça. Oui. Sur la rue Bruy, c'est ça.
Oui, on appelait ça la chapelle, mais c'était un...
Je ne suis pas si loin que ça, là.
On appelait ça aussi le temple Bruy. Ouais. Donc, la façade, l'arrière avec la porte, l'ancienne porte a été conservé, et la croix aussi, donc, pour montrer que c'était un lieu de culte. Ça n'est plus un lieu de culte, il y a des activités tout à fait diverses, plus ou moins liées au protestantisme, mais ça n'est plus un lieu de culte, non.
Et la cour qui sépare les deux bâtiments, qui sont donc parallèles, ces deux grands parallépipèdes, la cour qui sépare et qui donne lieu sur... Elle existait déjà, il y avait déjà un bâtiment là ou pas?
Oui, comme le disait Eric, il y avait le temple donc, qui était sur la partie du cours Gambetta, et sur l'arrière, c'est la rue Louise Guiraud. Il y avait ce dont on parlait tout à l'heure, l'école protestante, et puis le centre.
Et là, cette partie est résolument moderne. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'arcade, et plus on est dans un. Il y a cette cour qui sépare, et là, on rentre dans un autre monde.
Oui.
Alors, je trouve que avoir un bâtiment comme ça au cœur de Montpellier, c'est quand même une formidable chance. Au cœur d'un quartier très vivant, mais c'est une formidable chance. Vous, en tant que présidente donc, de l'association, j'imagine que vous mesurez combien cet outil, parce que c'est un outil, est utile et pour ceux qui l'ont mis en place, qui ont voulu développer ce projet, et pour ceux qui vont en profiter.
Oui, alors c'est un outil qui est utile déjà à ses résidents, notamment donc les résidents de l'Armée du Salut et de la pension de famille de Gamme. C'est un outil qui est utile aux bénévoles et aux bénévoles de l'association cultuelle l'Église protestante unie de Montpellier, également l'association d'entraide protestante qui est là, Radio FM Plus aussi, c'est vous êtes aussi ici, donc c'est vraiment un endroit où on se retrouve, et c'était un petit peu le projet initial, c'était la fondation protestante quand elle a mis sur pied ce projet, elle s'est dit on va rassembler un petit peu tout le monde, on va aller les voir et on va leur tirer un petit peu la manche pour qu'ils puissent venir, alors pas cohabiter puisque c'est un peu dans notre objet des statuts, c'est que on veut pas que ça reste qu'une cohabitation, on veut que ça aille au-delà et on parie un petit peu sur la collaboration dynamique de tous les résidents. Et ça, c'est un peu notre pari et notre enjeu pour les années qui viennent, c'est de voir un petit peu comment chacun peut collaborer pour faire des projets fructueux par tous, comme dit Luc Olivier.
C'est ce dont on va parler, effectivement, dans quelques instants et tout de suite après la musique. Je vous rappelle que vous écoutez Radio FM+, que vous êtes bien, contrairement à ce que vous pensez peut-être aujourd'hui, toujours en venant de l'expo, mais vous allez voir que les expos vont arriver, les projets artistiques aussi, qui seront associés justement à d'autres projets. Mais ça, c'est la surprise dans quelques minutes. À tout de suite.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I want much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Adrien, ah, je voulais pas citer, Adrien est à la technique, je fais bien de le faire, donc nous sommes 5 dans le studio, plus 1 à la technique, et sans Adrien qui est à la technique, nous ne serions rien, même à 5 dans ce studio. Merci Adrien. En venant de l'exposé d'aujourd'hui, bien sûr, vous êtes sur Radio FM+, et vous êtes, si vous écoutez Radio FM+, vous êtes un petit peu ici, j'allais dire chez vous, mais surtout au Carousel. Le Carousel dont on parle aujourd'hui, en venant de l'expo, parce que c'est un bâtiment historiquement et architecturalement intéressant, mais c'est aussi un projet, j'allais dire, ambitieux. Donc, je rappelle mes invités, on va commencer par les filles, tiens. Rebonjour, non. On commence par les filles. Ornella et Maura Jupin est avec nous. Elle est service civique ici, comme Lisa Delamarche. Donc celle, on parlait tout à l'heure de ce qu'elles sont en train, ce sur quoi elles sont en train de travailler en ce moment au Carousel. Nous avons entendu tout à l'heure Eric Bosque et un peu Stéphane Chenery. Et donc Eric, lui, est président de l'association qui porte, en fait, on va dire le Carousel. Là, je me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et Stéphane Chenery, lui, bah, c'est la cheville ouvrière, on va dire, de cet endroit. Il est incontournable ici, et je vais lui donner la parole parce qu'effectivement, il va nous. Non seulement il connaît toute l'histoire du lieu, pas qu'il soit né à l'époque du Carousel d'origine, hein, mais presque.
presque.
Mais vous pouvez lui demander n'importe quel dossier, n'importe quelle position de prise, n'importe quoi, où est-elle clé, comment on allume ça, il sait tout. C'est incroyable. Il est indispensable. Mais il ne faut pas qu'il tombe malade, surtout. Alors, Stéphane.
Oui.
Vous êtes arrivé ici. J'allais dire, tout était à faire.
Ah oui, oui, oui. On a participé au chantier, à la construction. Hein, donc, avec la Fondation du protestantisme, qui était donc le maître d'ouvrage. Et puis, oui, les réunions de chantier, tout ça avec nos partenaires. Hein, donc, GAM et l'Armée du Salut. Qui
sont les deux partenaires d'origine.
Oui, alors le projet, il a aussi évolué. Hein. Il y a vu le temps que ça a pris, on a parlé d'une quinzaine d'années entre 2008 et 2022, hein, donc oui. 2023. Donc il y a eu une quinzaine d'années où certains partenaires du projet se sont désengagés. Donc il a fallu aussi retrouver...
Parce que c'est long, voilà. Ça fait un temps long. Hein. Donc effectivement, il y avait des gens qui étaient plus dans une urgence.
C'est ça. Donc il y a eu d'autres partenaires, le montage a un petit peu évolué, mais GAM et l'Armée du Salut ont toujours été là.
On va peut-être préciser, GAM, oui. C'est un centre médical.
Alors GAM, non, c'est le gros opérateur social hein, de Montpellier, oui. Hein, donc immense structure, qui opère sur le département. Mmh. Avec plus de 1000 salariés hein, dans tous les domaines, de l'hébergement d'urgence, de l'accompagnement à la personne, du social en général. Mm-hmm. Hein, donc c'est vraiment une très grosse structure qui développe plusieurs activités, notamment ce qui concerne le logement. Et ici, donc, ils ont construit, participé au financement de 3 étages ici, qui sont en résidence sociale. Mmh. Donc 48 logements qui sont occupés par différents publics. C'est une résidence sociale. Alors donc ce sont des personnes qui ont un bail court, qui sont là en phase d'insertion, mais qui ont un travail, oui. qui ont et qui payent un loyer. Voilà, donc ça c'est la partie logement social. Et puis GAM développe aussi ici une nouvelle activité pour eux, qui est un centre de santé.
C'est ça, je faisais allusion au centre médical, voilà. Parce que c'est juste à côté de la radio, donc si on a un malaise ici, on sait qu'on n'a pas loin à aller.
Tout à fait.
Mais il n'y a pas de raison qu'on ait des malaises ici.
Voilà, centre de santé avec une dizaine de médecins, sages-femmes, infirmiers, psychiatres, psychologues, donc c'est très intéressant pour nous de pouvoir travailler avec eux, enfin de pouvoir construire avec eux des projets aussi d'animation autour de la santé.
Oui. Donc ça, c'est, on va voir comment vous allez réussir à associer tout le monde finalement aux événements qui vont se dérouler dans le carrousel, puisque c'est quand même un endroit de partage. Vous disiez, c'est pas une maison pour tous, c'est une maison par tous.
Par tous, oui.
Et on va voir que l'intérieur de la maison et tous les gens qui y sont, qui y travaillent, hein, qui y œuvrent pour certains, et l'extérieur sont associés véritablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce qui se passe dans la maison, il y a aussi tout ce qui se passe dans le quartier. Voilà. Donc si je résume, vous avez dit qu'il y avait l'Armée du Salut.
Alors l'Armée du Salut, on n'en a pas parlé. L'Armée du Salut, donc, c'est une fondation.
Oui. Hein,
donc la, les gens connaissent la, l'Armée du Salut, mais pour la, la, la fondation, c'est aussi une structure donc, qui œuvre dans, dans, dans le social, qui a différentes structures qui n'en avait pas à Montpellier, qui s'implante plus ou moins à Montpellier au travers de cette, cette nouvelle structure. C'est une pension de famille.
Oui.
C'est une pension de famille, une structure un petit peu originale, où ce sont des gens donc, qui sont là, par contre, qui n'ont pas un bail limité de 2 ans, mais qui sont là à vie, on va dire.
Hein.
Elles sont là en permanence, donc, et elles reconstruisent une vie, hein, après parfois un parcours un peu compliqué, elles reconstruisent une vie avec des moments collectifs, on va dire. Hein.
C'est... Quand on dit de pension de famille, ça veut dire qu'on on est nourri, enfin on a une chambre. On est nourri sur place, on n'a pas de courses à faire, ça fonctionne.
Non, non,
qu'est-ce
non,
que vous
non, non.
Pension de famille.
Alors, pension de famille, c'est justement cette, ce modèle-là. Les gens ont un appartement ou un studio, suivant comment ils sont, mais ils ont la possibilité d'avoir des activités collectives. Donc, ils ont
d'accord.
des salles communes
d'accord.
où ils font des activités.
C'est un peu comme une résidence senior, mais qui ne serait pas réservée qu'à des seniors.
Voilà, oui.
C'est
oui,
plutôt
oui.
ce principe-là.
Oui, oui.
D'accord.
Voilà,
ok.
Oui. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça pension de famille. C'est un peu le
oui.
terme. Bon, ce ne sont pas des familles, mais c'est une vie un petit peu collective. Quoi.
D'accord, d'accord. Donc, c'est une façon de se retrouver avec d'autres gens, de ne
voilà.
pas être isolé.
C'est ça.
Tout en ayant une certaine indépendance.
Tout à fait.
Et quel que soit son âge.
C'est ça.
Est-ce que c'est cet endroit-là qui reçoit parfois des mamans avec leurs enfants, c'est ça ou pas?
Non, les mamans avec enfants sont dans, le, dans la résidence sociale de gamme.
D'accord.
Donc il y a une partie, une grande partie des logements, des 48 logements dont je parlais tout à l'heure, qui sont affectés à des jeunes femmes avec ou sans enfants.
On a donc les logements de gamme, on a l'Armée du Salut.
Oui.
Et alors, quand on est dans le hall en bas,
oui.
il y a toujours Stéphane, il y a toujours quelqu'un qui pousse la porte et qui dit « Bonjour, je voudrais aller à la CIMAD. Il y a la CIMAD. »
Alors, nous, on a des... Nous, Association Carrousel, donc on a des salles, tout un étage, donc plus de 500 mètres carrés à mettre à disposition, donc... des personnes qui le souhaitent, hein, soit du quartier, soit des résidents, dans l'esprit, comme disait Eric, dans l'esprit de faire quelque chose ensemble, hein, de construire, de collaborer à un projet. Et on demande vraiment à ce que toutes les personnes qui viennent, qui souhaitent faire quelque chose au carrousel, adhèrent à notre projet. Il ne s'agit pas de réserver une salle pour faire sa petite activité dans son coin. On veut vraiment donner la possibilité. Enfin, on veut vraiment que ça soit ouvert à la fois donc sur les résidents et sur le quartier. C'est vraiment notre projet.
Et c'est la difficulté.
Oui, mais on y travaille, on y arrive. C'est pas toujours très simple. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut que les gens, d'abord par rapport au quartier, il faut que les gens nous connaissent. Hein. Il faut que les gens poussent la porte, se renseignent sur tout ce qui s'y passe. Mais ça vient petit à petit. Et par rapport aux résidents aussi, ça vient petit à petit. Hein, donc ça,
c'est et d'une certaine façon, c'est vous qui êtes chargé de mettre en musique et matériellement les choses. Et physiquement, j'allais dire, j'ai, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la porte coince, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là, etc.
Oui, alors...
et aussi de faire que les gens s'entendent, enfin partagent.
Voilà, partagent des activités. Animer le lieu, hein, c'est l'essence de notre association. Pas moi tout seul, mais il y a aussi, il faut bien le dire, une équipe de bénévoles, hein, avec plus d'une dizaine de bénévoles très actifs, hein, qui donnent de leur temps pour construire et participer à ces activités. Voilà.
Et c'est très varié parce que j'ai vu par exemple l'autre jour, je suis arrivée un samedi, moi je pensais que c'était fermé, il y avait un Ripper Café. Qui est-ce qui était au milieu du Ripper Café? Stéphane Chenery. Il y a un endroit où on peut faire garder des enfants, j'ai vu.
Oui.
Alors, c'est pas vous qui faites la garde des enfants quand même, Stéphane.
non, c'est mes jeunes collègues là, qui sont là, qui ont construit tout ça. Hein. C'est leur. Mais voilà, c'est un bon exemple, hein, je pense.
On peut faire du yoga?
Oui, alors l'exemple justement, hein, c'est, je pense qu'on donne toujours cet exemple de la boxe. Il y a un professeur de boxe du quartier qui est venu nous voir en disant « Je veux faire votre salle me plaît, j'ai envie de faire des cours de boxe dans vos salles. » On lui dit « D'accord ». Très bien, mais à condition de s'ouvrir sur les résidents, c'est-à-dire de donner un certain nombre de places dans vos cours aux résidents, donc à la fois de la résidence sociale et de la pension de famille. Donc il nous a dit OK, on a négocié un tarif en fonction de ça, et donc ces cours de boxe sont ouverts dans une certaine limite de places. Aux résidents ici, et nous donc pendant ce temps-là on boucle la boucle, si je puis dire, en proposant aux jeunes mamans de garder leurs enfants pendant qu'elles vont aux cours de boxe ou de renforcement musculaire.
Alors, il y a renforcement musculaire, j'ai vu qu'il y avait yoga, me semble-t-il. Boxe, il y a d'autres activités comme ça qui se déroulent en dehors de
ça. Non, il y a plusieurs types de boxe. Hein, donc,
voilà, il fait du shadowboxing et de la
cravate. C'est quoi le shadowboxing?
C'est plus du toucher, c'est du travail de la technique en boxe.
C'est l'ombre, c'est l'ombre d'un vrai coup, ça n'est que l'ombre.
Exactement, il propose du coup plusieurs approches de la boxe durant la semaine.
Bien, bon, c'est à essayer. C'est voilà, ouvert aux gens de l'extérieur ou pas?
Oui, alors voilà, c'est une activité ouverte au quartier qui se passe chez nous, mais où on essaie d'inciter les résidents à participer, à s'intégrer de cette manière-là au quartier, en proposant un service
dans la
global.
Troisième partie, voilà,
je trouve que c'est un bon exemple.
On va parler microfolie, mais c'est pas la seule chose que vous envisagez. Microfolie, c'est vraiment un très gros morceau. Donc là, les deux filles vont s'exprimer, hein, que ce soit Ornella encore ou Lisa. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre activité? Il y a des activités pastorales aussi. Il y a des activités d'insertion. Il y a Comment vous voyez les choses évoluer quoi pour ce lieu?
Il y a des activités spirituelles, on va dire, hein, non pas seulement donc religieuses, mais spirituelles de manière plus
œcuménique.
Œcuménique, bien sûr. Hein, donc nos amis catholiques, orthodoxes, juifs. Donc là, on dépasse le communisme, musulmans ont réservé de nos salles pour à certaines périodes. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tous. Et oui, on se veut un lieu social. Hein, c'est notre quoi qu'on le veuille. Enfin, on est d'une certaine manière un lieu social. Culturel, donc ça c'est mes jeunes collègues qui vont vous en parler, mais aussi spirituel avec des conférences, des animations autour de choses que l'Église
protestante. Donc ça, vous communiquez comment? Alors vous avez une radio éventuellement pour communiquer, vous montez deux étages ou un étage même simplement, et on peut en parler effectivement à la radio, mais comment vous communiquez pour que les gens effectivement repèrent ce lieu véritablement? Parce que là, il se trouve qu'il y a une exposition en ce moment, qu'il y en a eu une précédemment au moment du vernissage de Françoise Tiercelin. Là, il y a Béraud et Bureau, parce que c'est une formidable vitrine sur le cours Gambetta et sur le quartier. Mais quand on parle du lieu, il y a encore des gens qui n'ont pas réalisé d'abord qu'il n'y avait plus de travaux, que c'était ouvert, et des gens qui ne le situent pas forcément bien. Et parfois, on dit le nom d'une des associations, au lieu de dire le carrousel, on dit ah oui, c'est à la CIMAD. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'il y a tout un travail. Eric, pour faire reconnaître ce lieu, pour faire reconnaître ce lieu en tant que lieu à la fois d'accueil, de partage et probablement par le sport, par la culture, par tout un tas d'activités.
Oui, c'est un des enjeux, effectivement. Alors, comment on le fait connaître? Le bouche à oreille, déjà. C'est la première des choses. Donc quand une association vient, elle va en parler à d'autres peut-être aussi, ou un individu qui vient, il va dire tiens, j'ai découvert ça aujourd'hui. Après, on a les réseaux sociaux, hein. Donc on communique au travers de nos réseaux sociaux, page Facebook, LinkedIn,
les filles,
Instagram. Je regarde les filles parce que c'est Instagram, c'est la jeunesse. Voilà. qu'est-ce qu'on adore? Et après nos événements, enfin il y a des événements sur lesquels on se porte ou des événements qu'on organise nous-mêmes. Et on va en parler tout à l'heure, mais Microfolie va être un de nos
cheval de Troie.
Ouais, cheval de Troie un petit peu pour communiquer dans les mois et les années qui viennent, enfin, j'espère.
Pour rester fidèle à la tradition d'En venant de l'Expo, puisque c'est quand même une émission qui est sur l'art, je voulais dire un mot. Alors, parce qu'en ce moment, vous avez votre deuxième exposition. La première, c'était Françoise Tiercelin, donc c'était au moment de l'inauguration, si je ne m'abuse. Oui. Et là, vous avez deux salles qui ont été occupées et on s'est aperçu que c'était la seconde en particulier, était une vitrine sur l'extérieur absolument extraordinaire. Et gens rentrent, connaissent pas, et c'est là qu'on a ces réflexions en disant on ne savait pas que c'était ouvert, on ne savait pas qu'il y avait des expos.
Oui, c'est vraiment un lieu qui est idéalement placé, hein, donc au cœur de Montpellier. Et effectivement, nos vitrines, nos grandes fenêtres sont des lieux de communication extraordinaires. Donc on a les moyens de communication traditionnels.
Bureaux et bureaux ont posé des très grandes affiches, on les voit très très bien, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais vous l'aurez entendu sans doute dans l'agenda de ce matin, j'en profite pour dire que cette expo se termine le 22. Voilà, donc si vous voulez y aller, c'est aujourd'hui, parce que demain, ce sera la fin. Voilà. Très bien, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Une petite pause musicale, on va écouter Françoise Hardy, si vous le voulez bien, je crois que c'est une bonne chose.
Au bout du téléphone, il y a votre voix, et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire, et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver, ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime. Si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. De la vie vient en toi. Si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Écoute, jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse
Et nous voilà de retour. Alors, nous sommes toujours cinq dans le studio. Je pense que les deux filles seraient presque parties sur ce petit intermède musical. Parce qu'elles savent qu'elles vont être sur le grid. Donc, voilà. Donc les deux filles, bah, je redonne au moins leur prénom, Lisa et Ornella, qui sont service civique, qui travaillent donc pour le Carousel. On va voir dans quel cadre et sur quoi. Eric, qui lui est le président de l'association qui porte le Carousel. Et Stéphane, qui est l'homme clé de la maison. Mais quand je dis l'homme clé, c'est pas pour rien. C'est vraiment vrai. Parce qu'il connaît toute l'histoire du projet, de cette maison, et tout ce qu'elle est aujourd'hui, et toutes les ambitions qu'il y a à faire tourner, entre guillemets, ce Carousel. Ornella et Elisa, vous êtes toutes les deux services civiques. Alors, racontez-nous. On verra après avec le président si c'est important d'avoir des services civiques dans une association et pourquoi. Mais racontez-nous un peu ce que c'est qu'un service civique. Quand est-ce qu'on le fait et comment on choisit ?
Alors, un service civique, c'est un dispositif de l'État.
C'est Elisa qui parle.
Oui, c'est un dispositif de l'État qui permet aux jeunes entre 18 à 25 ans, si je ne me trompe pas, de s'engager, donc de faire une mission de volontariat, et en l'occurrence, de faire une mission qui est d'intérêt général. Donc ça, c'est le service civique de manière générale. Nous, la mission qu'on suit là actuellement au Carousel, c'est une mission qui est à la fois sociale et culturelle, puisque du coup, on travaille sur la programmation donc de Microfolie, on va y revenir, et on travaille aussi avec la FEP, du coup.
La FEP.
Une épicerie solidaire.
D'accord. Quand vous dites service civique, vous prenez un an de votre temps?
Alors, le temps, il varie. Il peut être de 6 mois à 12 mois.
Oui.
Nous, notre mission dure 8 mois.
Et vous êtes rémunéré?
On est rémunéré. Il y a en 80% indemnisé, oui, indemnisé. En effet. C'est pas, on n'a pas un statut de salarié. Donc, on est indemnisé à 80% par l'État, à peu près. Et le reste est à la charge de l'accueil.
De l'association qui vous accueille. Donc, pour vous, l'intérêt, c'est de pouvoir, malgré tout, garder du temps pour vous. On peut faire des études parallèlement.
Voilà. Là, les schémas sont différents.
Et financer un peu ces études.
C'est ça. Les schémas sont différents. Moi, je continue mes études en même temps, donc ça me permettait de pouvoir agencer les deux et d'avoir en effet un peu d'argent aussi qui rentre parce qu'il faut y penser. Et après, certaines personnes aussi s'engagent après des études, ça dépend, les schémas sont très différents.
Ornella ?
Alors moi, dans mon cas, j'avais une licence et c'était justement pour faire une pause.
Une licence en quoi ?
Une licence en urbanisme. Mmh. Et donc j'étais rentrée en master d'urbanisme et en fait j'avais envie de changer totalement de cursus. Donc c'était pour faire une pause et pour...
J'allais dire mauvaise nouvelle pour les parents.
Non, du tout.
Parce que ce sont déjà des longues études.
Comme on verra après, justement, c'est une mission qui est très intéressante. Ouais. Et c'était justement pour me créer un bagage pour une autre poursuite d'études, mais dans un autre secteur.
D'accord. Et quel serait cet autre secteur ?
Dans l'industrie créative ou la production musicale, ou en tout cas dans la culture.
D'accord, bien. Donc toutes les deux, vous êtes là pour 8 mois et on fait peser sur vous un lourd fardeau qui est à la fois passionnant mais qui est sûrement très difficile à mettre en place, c'est Microfolie. Alors, le président va nous expliquer comment est-ce qu'un endroit comme le Carousel, qui n'était pas encore tout à fait ouvert, et dans lequel parfois on essuie encore un peu quelques plâtres, hein, c'est de mieux en mieux, mais c'est vrai que c'est quand même un démarrage et vous partez de zéro d'une certaine façon dans certaines activités. Comment cette structure-là a pu entre guillemets décrocher Microfolie? En payant très cher ou...
Alors non, pas en payant très cher, mais là aussi c'est une longue histoire presque, puisqu'en fait le projet Carousel, il a été aussi pensé avant la livraison, hein, j'allais dire, hein, ça s'est pas décrété comme ça du jour au lendemain. Et donc c'est une des membres du conseil d'administration hein, qui a repéré ce dispositif qui était porté par le ministère de la Culture et qui a proposé ça à l'époque, hein, au moment où le bâtiment se réalisait. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, hein, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce bâtiment? Il faut bien qu'on ait peut-être quelque chose qui soit en lien avec nos intentions.
Il y avait déjà quand même pas
intentions.
Mal de choses. Hein.
Voilà, oui, il y avait quand même pas mal de choses, mais on avait une intention.
Phare, voilà, il fallait un projet phare. Qui nous donne une identité.
Exactement. Donc c'est parti sur ce projet-là, Microfolie. Et donc il fallait quand même batailler et montrer un petit peu patte blanche au niveau du ministère de la Culture, comme quoi on était capable de pouvoir accueillir ce dispositif et de le déployer convenablement. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la ville de Montpellier avait elle aussi ce projet-là. Voilà, donc nous sommes un petit peu concertés.
Ah bon, quand même. Voilà, oui, parallèlement.
Tout à fait. Non, mais voilà, nous l'avons appris, donc nous avons concerté un petit peu, consulté, et puis au bout du compte, donc le ministère a arbitré, et c'est nous qui avons pu avoir ce dispositif. Et donc là, aujourd'hui, ça y est, maintenant qu'on a cet outil-là, ben on avance, et on avance justement avec nos deux forces vives, hein, qui sont Ornella et Elisa.
Alors, je voulais dire que, pour l'instant, on n'a toujours pas dit ce que c'était que Microfolie.
Non.
Alors, c'est micro, mais c'est, on voit très grand quand même, micro. Et folie, il y a un côté un peu fou aussi. Et donc là, mesdemoiselles, puisque c'est vous qui êtes en charge du projet, vous allez nous expliquer ce que c'est que Microfolie, comment ça fonctionne, comment vous allez le développer, et comment vous allez arriver à amener des gens autour de ça, que ce soit des institutionnels, des professeurs, des artistes, etc., mais aussi du public, parce que l'idée, c'est quand même que ce soit le plus public possible. Qui commence ? Ornella.
Alors, la Microfolie, c'est un dispositif donc, qui est culturel, qui a été lancé donc, par le ministère de la Culture et qui est piloté par la Villette. C'est un projet qui a été lancé en 2017. Il me semble que la première Microfolie, c'était à Sevran. Donc, en fait, le projet s'articule autour du musée numérique. Donc, on a 12 partenaires. Sur ces 12 partenaires, on a les plus grands musées nationaux et les centres culturels. On a, par exemple, le musée du Louvre, on a le musée Pablo Picasso, le centre de théâtre d'Avignon, on a la Philharmonie. Donc, c'est pas...
Oui, il faut préciser que ça n'est pas que...
C'est pas que,
que de la peinture.
Du contenu pictural.
Voilà,
c'est exactement ça.
Ou de la sculpture, ou des arts plastiques. C'est de la danse, de la musique,
du théâtre.
Enfin, quand je dis musique, ça peut être de l'opéra, des grands concerts, etc.
De la science aussi.
De la
exactement,
science.
Exactement, parce qu'on a la Cité des sciences aussi, donc c'est vraiment très varié, très riche.
Et du jeu vidéo, non ?
Et du jeu vidéo, parce que, par un partenariat avec Ubisoft.
Exactement.
Ça, oui, alors
c'est
le jeu vidéo,
c'est
je pense, voilà, c'est ça, c'est dans le contenu. Cela dit, donc, ça veut dire que, quand on dit musée numérique, ça veut dire que les œuvres, évidemment, ne sont pas présentes, ça, on comprend bien, mais c'est une sorte d'immense écran.
C'est ça. Alors en fait, on
mais
a.
Qu'est-ce qui fait la différence avec une télé ? Je provoque un peu, hein. Vous allez m'expliquer.
Donc les personnes qui mettent en place la Microfolie ont accès à une base de données avec plus de 4000 œuvres qui sont numérisées, donc 4000 œuvres qui font partie des collections des 12 partenaires. Et nous, à
une
ce moment-là,
de données, en fait,
c'est ça, exactement. Et nous, à ce moment-là, on fait de la médiation culturelle et de la programmation culturelle, excusez-moi, autour de ces données-là qu'on projette sur un grand écran. Et donc c'est un dispositif qui est gratuit, qui est en accès libre pour tous. Et donc on projette ça sur un grand écran et les personnes viennent et ont accès à une tablette et voilà.
Et choisissent de voir les œuvres qu'ils souhaitent voir ou par thématique.
Exactement.
Alors ça demande quand même une toute petite, parce que dès qu'on parle numérique, c'est vrai que ça peut effrayer certaines personnes. Hein. Ça demande un petit apprentissage. Alors, moi, j'ai essayé, j'ai mis un petit moment à comprendre comment ça fonctionnait. Bon, je ne suis pas non plus une grande informaticienne. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être une grande informaticienne ou un grand informaticien. Mais vous êtes assis sur un siège, vous avez devant vous une tablette qui est posée sur un support. Et à partir de là, vous télécommandez, donc, grosso modo, ce qui va passer sur le très grand écran. Est-ce que c'est
dans
ça ?
Dans le sens inverse.
C'est dans le sens inverse. Ça,
la collection défile sur le grand écran. Et vous, avec la tablette, vous avez une visite individuelle avec le choix des œuvres que vous faites au fur et à mesure. Vous appuyez sur un petit.
Oui, c'est vous qui commandez, coup, voilà. À la limite, votre...
Et vous créez votre propre visite avec les œuvres aimées.
Votre propre visite. Alors ça, c'est quand on vient tout seul et qu'on veut se faire plaisir en disant, tiens, je voudrais voir tel type d'œuvre au Louvre ou je ne sais où, je voudrais écouter tel opéra, ça peut se faire. Ça. Il suffit de venir, de frapper à la porte et de dire, je voudrais écouter tel opéra, est-ce que vous pouvez me brancher la tablette ?
Pas tout à fait à la demande. Nous, on projette des collections par thème et par période aussi. Et en fonction de ces collections projetées, là, vous avez accès à un certain contenu. On peut peut-être pas faire du par cas et projeter, par exemple, on veut voir la Joconde là tout de suite, ce ne sera pas forcément possible, mais sur demande et dans le cadre d'une réservation avec un groupe, par contre, ça peut se faire.
Donc ça veut dire qu'il faut faire à la limite une programmation aussi.
Exactement. Donc, il y a plusieurs modalités.
Là-dessus que vous travaillez, parce que ça peut être, est-ce que ça peut être un groupe de 10 personnes qui sont amis ?
Il y a plusieurs modalités.
Oui,
il y a la première modalité, c'est le musée en accès libre. Et donc là, c'est deux samedis dans le mois. Enfin, nous, en tout cas, on propose deux samedis dans le mois où on projette des collections et vous venez profiter d'une visite individuelle avec cette collection qui est projetée en amont. Par contre, la deuxième possibilité, ça va être un mode conférence. Et ce mode conférence-là, là, nous, on travaille avec des groupes qui réservent. Et là, on crée une médiation en utilisant le musée numérique comme un outil de médiation culturelle.
C'est-à-dire que vous choisissez une thématique ou vous choisissez une thématique. Enfin, c'est plutôt eux qui choisissent, je suppose.
Qui peut être travaillé justement avec le médiateur ou l'animateur du groupe qui souhaite venir au musée numérique.
D'accord. Donc, lui peut préparer avec vous avant.
C'est ça.
Et ensuite,
co-construire en tout cas, oui.
D'accord. Ok. Et donc, c'est gratuit.
Et c'est un dispositif qui est gratuit. Après.
Gratuit parce que subventionné par le ministère de la Culture.
Non, parce que dans les objectifs plutôt. Excuse-moi Eric, je t'ai peut-être coupé.
Non. Il n'y a pas de subvention non, de la part du ministère de la culture sur ce projet-là, non. Pardon.
D'accord. Donc
c'est fait, surtout par rapport aux objectifs du musée numérique. L'objectif est de démocratiser la culture, l'objectif est de réduire la fracture numérique et plus
c'est
largement
d'amener la culture à une échelle locale et que ça soit gratuit pour tout le monde, en fait.
C'est ça. Et s'ouvrir à des publics éloignés.
Ça correspond donc parfaitement, effectivement, ça colle parfaitement au projet du carrousel, enfin au projet plus global, plus général.
Oui, c'est de la culture pour tous, c'est un peu les valeurs du carrousel, hein, c'est l'ouverture aussi sur le quartier, amener la culture au plus grand nombre. Donc ça, c'est effectivement, ça colle et c'est en cohérence avec les valeurs du carrousel, oui.
Il y a aussi dans ce système-là, enfin moi j'ai été très impressionnée par ça, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai marché en équilibre sur les cimes du Mont Blanc. Il y a aussi des possibilités de voir de la réalité augmentée. C'est impressionnant. Enfin, moi, personnellement, j'avais jamais trop testé. Là, c'est très, très intéressant.
Réalité virtuelle.
Réalité virtuelle. Oui. J'ai dit réalité augmentée, c'est ça. Réalité virtuelle.
Ce qui est intéressant, c'est que la microfolie, c'est vraiment créer son propre espace à l'échelle locale. Le musée numérique, c'est le centre. Donc, c'est l'outil que toutes les microfolies dans le monde ont dans leur espace. Et autour de ça, on a d'autres dispositifs qu'on peut mettre en place. On peut avoir des espaces scéniques, on peut avoir la réalité virtuelle, on peut aussi avoir le Fab Lab, qui est composé d'imprimantes 3D et d'ateliers, du coup, beaucoup plus pratiques. Et on l'adapte à l'échelle locale, aux besoins et aux envies de l'association qui accueille, du lieu qui accueille.
Est-ce que, par exemple, vous allez adjoindre un Fab Lab ?
Alors, pour l'instant, c'est pas prévu.
Non.
Pour l'instant, c'est pas prévu. Nous, on développe l'aspect réalité virtuelle et l'aspect ludothèque aussi. On est en train de travailler là-dessus avec des mallettes pédagogiques des MNR. Des RMN.
Ouais. Réunion
des musées nationaux. Oui. Et on essaye de développer ces aspects-là. Et autour de ça, en effet, on crée une programmation. Notamment, on a prévu une jolie programmation théâtrale qui va commencer dès le mois de janvier. Et ensuite, des ateliers en partenariat, du coup, avec des artistes qui veulent travailler avec nous. Des artistes peintres, notamment. Et des danseurs aussi.
Des dates, des thèmes. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont arrêtées dans votre programmation ?
On a le 13 et le 27 janvier, on a deux postes culturels. Donc, c'est des samedis après-midi, de 14h à 17h.
Oui.
Donc, le musée en accès libre, la possibilité de découvrir la réalité virtuelle et le musée.
Oui.
Et pour l'instant, les dates sont à confirmer pour le théâtre, mais on peut peut-être déjà annoncer le 19 et le 26.
Janvier.
Enfin, janvier.
Et pour la même chose ?
Alors, la première représentation, c'est la troupe Le Garage.
Ah, c'est du théâtre.
Oui, c'est du théâtre.
Oui.
Et la deuxième représentation, c'est la compagnie maritime. Ce sont les étudiants de la compagnie maritime en pro première année.
D'accord. Voilà. Donc, qui viennent
qui viennent au carrousel, dans le cadre de la programmation Microfolie, faire une représentation théâtrale.
Qui va s'appuyer sur des éléments ?
Pas nécessairement, mais nous, on va essayer de travailler, par exemple, sur les postes culturels, en essayant de faire des liens entre leurs prestations et nous, le musée numérique, ce qu'on peut proposer.
C'est super, ça.
C'est joli.
C'est très ouvert, en fait. On peut faire plein de choses. Je suppose que vous n'avez pas encore découvert, il nous reste vraiment une minute, tout à fait tous les
contenus.
Des contenus aussi, j'espère pour vous, mais tout ce que ça peut permettre. J'ai l'impression que tous les jours, vous avancez un peu plus dans ce...
Absolument, c'est la porte ouverte à tout, en fait, en termes de programmation culturelle.
Mais pas à n'importe quoi.
Oui, voilà, on va peut-être l'expression pas en entière, mais ça nous permet vraiment d'explorer absolument toutes les disciplines artistiques et de travailler en collaboration. C'est ça qui est assez intéressant, il y a vraiment cette notion de solidarité, puisque c'est un dispositif gratuit aussi, et donc le fait de travailler en collaboration.
Bien écoutez, je vous remercie tous les quatre d'être venus. Alors, on est parti d'un peu loin, hein, les gens de se dire, mais c'est quoi ça, revenant de l'expo, on ne reconnaît pas, c'est pas ça. Et on est retombé sur nos pieds, parce qu'en fait, dans cet endroit, à la fois, on développe tout ce qui est en lien avec l'humanité, sa richesse, mais aussi des fois sa détresse, ses difficultés. Et puis tout ce que l'art peut apporter là-dedans, c'est-à-dire à la fois une forme de joie de vivre, de découverte, de nourriture, et puis aussi parfois de consolation, parce que ça arrive qu'une œuvre d'art puisse vous consoler, je pense. À la musique, bien sûr, mais aussi à certaines œuvres picturales. Je vous remercie tous les quatre. Donc, je recite les personnes qui étaient avec moi aujourd'hui. Lisa, Ornella, Eric et Stéphane, merci. Qui nous ont parlé parler de cet endroit assez particulier qui s'appelle le Carousel, que vous êtes tous invités à venir visiter. J'allais dire, l'entrée est libre, ne vous inquiétez pas, même si c'est pas ouvert, Stéphane est derrière la porte et il vous ouvrira la porte. Merci à tous de votre fidélité, mais il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Merci à Adrien qui a bien mérité de partir en week-end ce soir. L'émission sera rediffusée à 20h dimanche. Et puis, vous pouvez la trouver sur les podcasts de Radio Plus FM, dont les locaux se trouvent où ? Au Carousel. Bonne soirée.
Merci
beaucoup.
Merci, au revoir.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens au rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.